La grâce, la miséricorde et la paix sont sur chacun et chacune d'entre vous, en Dieu, notre Père et le Père de Jésus-Christ. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, nous te rendons hommage, car tu es notre Dieu. De génération en génération, tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que depuis toujours nous remercions pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis jour après jour. Pour nos âmes que tu gardes, pour nos pas que tu éclaires et pour tous tes miracles envers nous chaque jour. À toute heure, le soir, le matin et à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève jamais. Père éternel, tes grâces sont éternelles. Depuis toujours, tu es notre joie profonde. Je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 81, toujours dans le psautier français, que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, les quatre premières strophes du psaume 81. Bienvenue à vous pour ce temps de culte. Oui, c'est une joie de se réunir ainsi pour chercher ensemble la parole de Dieu, la parole que Dieu adresse directement à chacune et à chacun au plus profond de son être, et puis d'être ici réunis à quelques-uns, les rescapés des vacances, pour dire notre louange, notre reconnaissance à Dieu. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon les paroles de l'Évangile. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. Voici le premier et le grand commandement, nous dit Jésus, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là.
Thank you.
Et avec le prophète Jérémie, nous reconnaissons la douleur de Dieu quand il nous voit gâcher la vie. Dieu nous dit « Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu fais. Tu es comme un dromadaire à la course légère et vagabonde. Tu es comme une ânesse sauvage, habituée au désert et épuisée à courir après ses passions. Qui t'empêchera de satisfaire ton désir de l'instant ? Mais voilà ce que tu me réponds. Inutile que tu t'approches, car j'aime d'autres dieux et c'est vers eux que je veux aller. » Et ils disent à un morceau de bois, « Tu es mon père. » À une pierre, « Tu m'as donné la vie. » Ils me tournent le dos, ils ne me regardent même pas. Et quand ils sont dans le malheur, alors ils me disent, « Lève-toi et sauve-nous. » Où sont donc les dieux que tu t'es faits, ô Israël ? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Mais tu as autant de dieux que de villes, ô mon peuple, ô mon enfant bien-aimé. Mais que chacun reçoive vraiment la certitude, l'assurance de la bienveillance irréductible de Dieu à son égard, et que chacun reçoive de lui de naître et de grandir par le Créateur de la vie. « Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Ô Éternel, je crois que tu es le Dieu vivant et que tu es mon Dieu. Je crois que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Il est mon frère, mon ami, mon Seigneur. Je crois que ton Esprit nous fait vivre avec plus de foi, plus d'espérance et plus d'amour. Je crois que c'est ensemble que nous avancerons vers toi et qu'ensemble nous ferons un monde plus juste. Mon Dieu, je crois qu'il n'y a en toi que du bien et que tu nous fais vivre éternellement dans la liberté et dans la joie. Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Le Cantique des Cantiques est un poème d'amour souvent assez cru, en fait, et il a bien failli ne pas être intégré à la Bible. Pourtant, certains rabbins et certains théologiens de l'Église le plaçaient au-dessus de tout, l'appelant le livre Saint des Saints. D'autres trouvaient que ce livre n'avait pas sa place dans la Bible et qu'il méritait plutôt une interdiction au moins de 18 ans. Les églises étaient alors comme la télévision maintenant. On pouvait montrer des scènes de massacres absolument épouvantables aux informations, à l'heure où tout le monde mange en famille. Mais la moindre scène de sexe est absolument invisible, interdite à la télévision, à cette heure-là. Mais finalement, le Cantique des Cantiques a été intégré officiellement à la Bible dès le IIIe siècle, parce qu'effectivement, c'est une magnifique, une profonde méditation sur l'amour fou de Dieu pour la personne humaine et l'amour fou de l'homme pour son Dieu. L'alliance de la grâce et de la foi est une histoire d'amour. L'histoire de Dieu qui cherche l'homme, comme Roméo cherche Juliette, et l'histoire de l'homme qui cherche son Dieu, son bonheur et sa vie. Et c'est de cela que parle ce texte que je vais vous lire ce matin, un poème d'amour, qui dit « La beauté, la sainteté, d'abord de l'amour humain en ce monde, mais aussi l'incroyable beauté de l'amour de Dieu. L'amour humain est bien digne de servir de parabole à cette alliance qui est en fait celle d'un amour fou entre l'homme et son Dieu. » Donc je vous propose au chapitre 3 du Cantique des Cantiques de Salomon, paraît-il, les quatre premiers versets. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me lève donc et je fais le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je cherche celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus jusqu'à ce que j'ai pu l'introduire dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour prendre un temps de méditation personnelle sur cette écriture, je vous propose de chanter ensemble le cantique numéro 399 dans le petit recueil Louanges et prières. Ce cantique 399, « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi », les trois strophes. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver plus encore. Devant toi est ma force et ma faiblesse. Garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma connaissance et mon ignorance. Là où tu m'as déjà ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Et là où la porte est fermée, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons de la force, de l'intelligence et de la foi, jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui qu'aime ma vie. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Dans ce texte du Cantique des Cantiques, Salomon nous propose de chercher, au moins de chercher quelque chose. C'est le premier conseil qu'il nous donne et je crois qu'il est excellent. Ensuite, il nous propose de chercher celui que nous aimons. Bon, ce n'est quand même pas une punition, c'est quelque chose de joyeux en fait. Dans certaines traductions, il y a marqué « de chercher celui qu'aime mon cœur ». C'est pour être un peu romantique, mais ce n'est pas ici seulement un amour sentimental dont il est question, en fait. D'autres traductions mettent que Salomon nous propose de chercher celui qu'aime mon âme, mais ce n'est pas non plus seulement un amour spirituel dont il est question quand nous aimons Dieu. C'est notre être tout entier, en fait, dans le mot hébreu qui est là « nefesh ». C'est notre vie dans toutes ses dimensions de corps, de cœur, d'intelligence, d'âme qui est ici mise en route par cet amour de Dieu. Et cette recherche de ce que nous aimons ne consiste donc pas à chercher à assouvir notre simple désir de l'instant comme le dromadaire ou l'ânesse sauvage dont parlait Jérémie, mais à chercher ce à quoi aspire vraiment réellement notre être tout entier. Mais la phrase « j'ai cherché celui que mon être aime, que ma vie aime » est en fait à double sens. Le premier sens, cela veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que mon être aime vraiment? De quoi est-ce que mon être a vraiment soif? Au fond, qu'est-ce qui donne vie à ma vie? Au fond, qu'est-ce qui transcende mes joies et mes peines? Qu'est-ce qui approfondit mon être et élève ma conscience? C'est la première question, la première recherche, la première quête. Et ensuite, c'est la deuxième, c'est d'être cohérent avec ce qu'on a pu discerner et retenir comme étant ce que notre vie aime profondément. Et seulement ensuite, après avoir discerné cela, chercher à rejoindre et à saisir ce que l'on a choisi, reconnu comme étant juste et bon pour nous. Salomon nous propose donc une double recherche, une recherche de l'objectif et celle du chemin vers cet objectif. Ou pour reprendre la métaphore de ce livre, d'abord de choisir avec qui nous voudrions avoir un enfant, et ensuite de lui faire la cour. Le texte nous dit de rechercher notre amour pendant les nuits, au pluriel, car il n'y a pas une seule sorte de ténèbres sur notre existence qui puisse assombrir notre vie. Il y a des ténèbres spirituelles, oui, de manque de foi, il y a des nuits de la connaissance par le doute et par les hésitations, il y a des nuits existentielles de découragement et de stagnation, des nuits de l'accumulation des petits et des grands soucis de notre existence quotidienne. Dans tous les cas, le texte nous propose comme piste pour réveiller l'aurore, oui, de rechercher ce qu'aime véritablement notre être. Alors s'il y a des nuits de ténèbres, la nuit également a des côtés positifs. Elle évoque le temps du repos, mais aussi la torride nuit d'amour qui est le thème de ce cantique des cantiques. Et c'est d'ailleurs ce côté de la fécondation qui est évoqué à la fin du passage que je vous ai lu. Et donc le lit, il évoque l'une comme l'autre aussi de ses activités, le repos et la sensualité. Et elles sont faites l'une comme l'autre pour être des temps de bénédiction et pour ne pas être des temps de ténèbres et de désordre et de mort, bien sûr. Mais ça peut vraiment être des temps de bénédiction. Alors dans ce début du texte où celui que l'on aime est absent, les ténèbres évoquent plus un moment de difficulté et le lit et la nuit évoquent plus peut-être un temps de méditation, effectivement, un temps important, un temps qui peut être comme un temps de sabbat dans nos 24 heures de la journée. Le jour, tant qu'il fait jour, c'est un temps pour l'action et la nuit est un temps propice à la méditation et à la paix, alors qu'on est là, bien tranquille, dans son lit. Par notre recherche de ce qu'aime notre âme, ce temps peut vraiment être un temps de supplément de lucidité, un temps comparable à celui du désert pour les Hébreux, un temps de libération de ce qui nous enchaîne, un temps d'écoute, un temps de marche. Chercher ce qu'aime notre être, ce qu'aime notre vie profondément. Alors c'est chercher Dieu, bien entendu, car notre être a la connaissance comme la mémoire, dit saint Augustin, mémoire de sa source, et notre vie a soif de cette source. Elle sait qu'un bonheur est possible, et dans ce sentiment qu'un bonheur est possible, il y a comme une mémoire de cette origine qu'est Dieu. Et nous cherchons Dieu en tâtonnant, nous dit l'apôtre Paul dans ce discours aux Athéniens, car nous sommes comme dans la nuit, comme un enfant peut-être, qui n'a pas encore tout à fait ouvert les yeux. Et pourtant, oui, nous pouvons chercher Dieu dans notre existence comme à tâtons. Nous pouvons l'effleurer car il est si proche et qu'il nous a fait. Alors chercher, oui, qui est Dieu pour nous et comment nous pourrions le vivre, le goûter dans la réflexion, dans l'émotion artistique même, dans le sentiment amoureux, dans l'action. Alors si l'on regarde ce que Paul dit de sa démarche, de sa recherche de Dieu, de sa démarche profonde, nous voyons, oui, qu'il cherchait Dieu et le salut de son être. Et nous voyons aussi, et il le dit souvent dans ses lettres, qu'il continuait à le chercher, bien qu'il l'ait déjà trouvé partiellement, parce qu'il est la source de la vie, du mouvement et de l'être. Et Paul nous dit aussi souvent qu'il cherche autre chose dans sa vie, et c'est peut-être une chose aussi vraiment importante. Il dit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Oui, nous avons ce devoir de sincérité. Oui, nous pouvons chercher ce qui nous fait du bien, chercher Dieu, chercher son salut, mais aussi faire en sorte de pouvoir nous regarder dans la glace. C'est-à-dire de pouvoir dire que l'on a travaillé sur le but de notre vie, dans la sincérité, dans la droiture, dans une sincérité par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie, par rapport aux autres qui nous entourent, par rapport à Dieu. La question dans cette recherche n'est pas de se faire bien voir des gens. Ce n'est pas le style des hommes de la Bible. à commencer par les prophètes, encore moins le style de Jésus ou de Paul. Mais cherchez ce qu'aime notre être en profondeur, en sincérité, en vérité. Sans gâcher les occasions, en tenant bon dans les mauvais jours comme dans les jours où la vie est particulièrement douce. Cherchez Dieu tant qu'il faut. J'ai cherché ainsi celui qu'aime ma vie, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Cela ne veut pas dire que cela servit à rien de chercher Dieu dans la méditation, dans son lit, dans la nuit, dans les ténèbres, mais simplement qu'il y a d'autres étapes après celle-là. Alors je me lève et je fais le tour de la ville, nous dit Salomon, dans les rues et sur les places, et je cherche celui qu'aime ma vie. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé encore. Alors la recherche de la rencontre des autres est une seconde étape, une occasion de découvrir leurs multiples points de vue sur Dieu et sur ce que peut être pour l'homme la source d'une vie meilleure, d'une vie plus grande. Cette deuxième étape apporte d'abord un changement de perspective intéressant, complémentaire de la première perspective, de la première recherche, seul, dans son lit, par la méditation et la prière. L'objectif reste le même, chercher celui qu'aime ma vie, à moi finalement, avec ce point de vue subjectif et personnel, mais avec maintenant un décentrement essentiel. Mon point de vue est important, mais il est partiel. Et il pourrait sans doute être encore amélioré, sans doute être encore approfondi, développé. Et chercher seul serait oublier ce qui n'est pas un petit détail finalement. C'est que mon monde n'est pas une île déserte où je serai seul, mais il est plutôt comme une ville, faite de multiples relations. L'homme est un animal social. Et ce qui fait du bien à ma vie, ce n'est pas sans les autres qu'il fera du bien à ma vie. Nous n'avons donc pas seulement une conscience devant Dieu, mais aussi devant les hommes, avec eux et pour eux aussi. Et donc la deuxième étape est de chercher en rencontrant les autres, dans le dialogue, dans l'écoute, dans les rues et sur les places, pour voir finalement comment est-ce que les autres cheminent, comment est-ce qu'ils passent, et puis voir aussi comment ils se retrouvent en un même endroit pour discuter et pour vivre ensemble. Alors cette deuxième étape, elle aussi se conclut par un « J'ai cherché ainsi celui qu'aime ma vie, je l'ai cherché et je ne l'ai pas encore trouvé. » Cela ne veut pas dire que cela servit à rien non plus de chercher Dieu avec les autres, mais qu'il y a d'autres étapes après ces deux premières étapes de recherche. Alors, j'ai été trouvé par les gardes, nous dit Salomon, les gardes qui tournent autour de la ville. Et je leur ai demandé, avez-vous vu celui que mon cœur aime, celui que mon être, ma vie aime? Les gardes, ils patrouillent sur les remparts de la ville, à la limite entre la civilisation et puis le monde sauvage, la nature sauvage qui est à l'extérieur. Les gardes sont les philosophes et les théologiens, les religieuses et les savants, les poètes et les artistes. Et ils gardent vraiment quelque chose. Même si nous ne les cherchons pas, nous dit le texte, ce sont eux qui nous trouvent, et c'est vrai qu'ils nous précèdent dans un sens. Et en effet, cette mémoire nous rejoint par la bouche des bien-pensants, par les trésors de la culture, par notre éducation, par l'inconscient collectif, comme on dit parfois, et puis ce qui passe par être les vérités éternelles qu'il faudrait absolument croire, au risque d'être en dehors de la vérité, nous disent les gardes. Alors Salomon nous invite à ne pas nous formaliser de l'ingérence de ces gardes dans notre propre quête, mais plutôt à les interroger et à écouter ce qu'ils ont à nous dire. Avez-vous vu celui que mon cœur, que ma vie, que mon être aime? Non, bien sûr. Ils ne peuvent pas avoir vu celui que ma vie aime, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas moi et que je ne suis pas eux. Ils ont peut-être, et c'est souvent le cas, aperçu et saisi ce que leur cœur à eux aime en Dieu. Mais ils ne le possèdent pas pour autant, et ils ne peuvent pas savoir ce que Dieu voudrait être pour moi, en fait. Il est mon Roméo et je suis sa Juliette. Et dans cet amour, il y a quelque chose d'extraordinairement subjectif aussi. Et pourtant, puisque nous sommes frères et sœurs, partageons cette humanité, les gardes ont quelque chose à me dire aussi. Nous ne pouvons trouver Dieu qu'en dépassant, nous dit Salomon, les gardiens du temple, les maîtres de la théologie, les savants, les artistes et les religieux. Nous ne pouvons trouver la sagesse qu'en dépassant celle des philosophes. Il faut les dépasser, finalement, littéralement en hébreu, il faut passer par eux et nous en éloigner en allant plus loin. Alors nous pouvons trouver. À peine les avais-je dépassés, dit Salomon, que j'ai trouvé celui que mon être aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Cette étape semble plus facile puisque l'objectif de la quête est atteint et c'est la joie finalement, la joie de la rencontre de celui qu'on aime. Sauf qu'une difficulté, une double, une triple difficulté survient à ce stade. Aujourd'hui, on ne dit plus difficulté, on dit un défi. Voilà. Et donc le premier défi, c'est d'abord de savoir que nous avons trouvé celui qu'aime notre vie. De le reconnaître alors que nous le cherchions à tâtons et qu'il n'est jamais tout à fait comme nous l'avions fantasmé. Dieu est toujours une surprise. Nous avons en quelque sorte Dieu en mémoire quand nous cherchons le bonheur, nous dit saint Augustin, et pourtant Dieu est au-delà de notre mémoire. De sorte, ajoute Blaise Pascal à cette page de saint Augustin, de sorte que nous désespérons parfois de le trouver. Mais Dieu répond à Pascal, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé, en fait. » Et donc, oui, reconnaître, saisir et ne pas lâcher celui qu'aime notre âme et que nous rencontrons par la foi. C'est là le premier défi à ce stade de la foi. Et le deuxième défi, c'est de ne pas s'arrêter à cette connaissance, à cette reconnaissance, à cette embrassade, à cet amour, mais de le lâcher, finalement, de l'accompagner et de le lâcher. J'ai trouvé celui que mon être aime, je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas, mais je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je l'ai fait venir à la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçu. C'est également ce que Jésus nous propose selon ce que Jean nous dit dans son livre. Ne pas seulement, dit-il dans son prologue, dans l'introduction à son évangile, ne pas seulement savoir que la parole et la lumière de Dieu a été vraiment manifestée en Jésus-Christ, en chair et en os. Mais recevoir cette parole et recevoir cette lumière de sorte que nous devenions enfants de Dieu, non pas simplement un enfant de la chair, mais de Dieu. Car si Dieu nous donne en Christ le pouvoir de devenir son enfant, dit Jean, ce n'est qu'une possibilité qui reste offerte, en fait, reste à concrétiser. Et c'est également ce que Jésus apprend à Nicodème, un savant théologien venu lui aussi lors d'une nuit précieuse. Il ne suffit pas de rencontrer le Christ et de savoir qu'il porte la vie. Encore faut-il, dit Jésus à Nicodème, naître de nouveau, naître d'en haut. Nicodème lui répond, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer encore dans le sein de sa mère et naître? Eh bien oui, en fait. Mais comment est-ce que Nicodème, savant et pieux lecteur de la Bible, n'a pas lu le livre Saint des Saints, le Cantique des Cantiques? Salomon nous dit, « Je ne lâcherai pas celui que mon cœur aime jusqu'à ce que je l'ai fait venir dans la maison de ma mère, dans la chambre où ma mère elle-même m'a conçu. » Salomon nous invite ainsi à honorer d'abord notre père et notre mère qui nous ont effectivement donné la vie. Et il nous suggère aussi de demander à Dieu, de contraindre Dieu finalement, à entrer dans ce processus de génération de ce que nous sommes et de donner ainsi vie à notre façon de vivre et d'espérer. Mais il fallait dépasser les gardiens du savoir pour arriver à notre propre expérience de Dieu. Il fallait dépasser même notre propre amour de Dieu pour nous laisser féconder par lui finalement, que notre sentiment, notre conscience, notre amour, notre sagesse soit vraiment fécondée par cette présence de Dieu. Il reste alors encore un dernier défi, c'est de nous séparer de Dieu, alors le temps d'une respiration finalement. Ne pas rester scotché ni dans les jupes de sa mère, ni dans celles de Dieu. Il nous donne la vie pour que nous en vivions libres et joyeux. J'ai trouvé celui que mon être aime, je l'ai saisi, et je ne le lâcherai pas jusqu'à ce que je l'ai fait venir là où j'étais conçu, et alors il faut le lâcher. Dieu, notre amour, est un amant à saisir et à étreindre dans la nuit, et quand vient le jour, vient le temps d'aller au boulot, le temps de nous réconcilier avec les autres dimensions de notre existence aussi, avec l'activité en ce monde, avec la relation avec nos proches, avec toutes ces dimensions de notre existence qui tirent leur fécondité de cette rencontre avec Dieu en pensée, en parole et en acte. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble au psaume 89 dans le psautier français, ce psaume de louange, « Je louerai ton amour et ta fidélité », les trois premières strophes du psaume 89. Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. D'abord, mercredi, comme tous les mercredis de l'été, juillet-août, eh bien, nous avons un temps de lecture biblique, d'études bibliques, aux 4 rues de l'Oratoire, de 12h30 à 1h30. Alors, vous pouvez avoir mangé avant ou venir avec votre sandwich et partager un café avec nous. Nous avons une réflexion donc sur le temps au cours de ces 2 mois. Et nous poursuivons mercredi prochain une étude sur notre éternité en suivant d'autres épîtres que celles que nous avons vues la dernière fois, donc la 2e lettre aux Corinthiens, un passage d'Éphésiens et un passage de la 1ère lettre de Jean. Vendredi, ici même à 11h30, il y a des baptêmes d'Irène et Armand Boris, 2 enfants, dont les parents se marieront le lendemain avec une cérémonie à 14h30 ici, donc c'est Jeanne Latérade et Jean-Philippe Boris. Samedi à 19h ici, il y a un récital d'alto, donc nous sommes invités par les amis de l'oratoire et de son orgue à ce récital. Alors c'est en entrée libre et puis avec une participation aux frais si on le désire. Récital d'alto avec Adrien Lamarca, avec un programme assez large, pour donc 1 heure d'alto, samedi de 19h à 20h ici même. Et puis dimanche prochain, comme tous les dimanches, un culte à 10h30, mais c'est un culte avec une petite particularité, c'est que nous avons habituellement un temps de mémoire, donc pour le 24 août 1572, pas pour ressasser les vieilles rancunes, mais au contraire, pour un travail de mémoire qui nous permet eh bien, d'avancer nous-mêmes dans le respect, dans l'amour de Dieu. Alors sinon, eh bien, la prochaine feuille rose, comme on dit, c'est-à-dire le bulletin de notre paroisse est chez l'imprimeur. Il va y avoir donc le bulletin de rentrée qui va sortir. Si vous désirez le recevoir chez vous, vous pouvez vous inscrire sur les feuilles à la sortie. Mais sinon, vous êtes tout à fait libre de rester anonyme et paroissien de cette église. Vous trouverez de toute façon le bulletin sur la table donc d'ici quelques semaines. Alors en ces dimanches, comme vous le voyez, nous allons célébrer la scène, la communion. Tous sont invités à s'approcher de la table du Seigneur et à prendre le pain et à boire dans la coupe, si tel est leur désir, en signe de volonté de nous nourrir de tout ce que Dieu nous donne en Christ. Mais tout le monde n'est pas sensible à ce signe. Et donc ceux qui ne désirent pas communier peuvent, il y a différentes possibilités, venir dans le cercle et puis passer le plat et la coupe ou bien rester à leur place à méditer silencieusement. Maintenant, les diacres de notre Église vont recueillir notre offrande et c'est vrai que nous avons tout reçu gratuitement de la part de Dieu. Et bien que ce temps d'offrande soit un temps de louange, de reconnaissance et donc de solidarité. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô notre Dieu, Père éternel et saint, il est vraiment digne et juste, et c'est aussi notre joie et notre salut de te rendre grâce. Par Jésus-Christ notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour. C'est pourquoi avec tous les chrétiens partout dans le monde, quelle que soit leur Église, avec la grande nuée des témoins au travers les siècles, en une joie commune, nous te rendons grâce. Saint, saint, saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa lumière. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et voici comment Matthieu raconte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et Jésus ajoute cette promesse qui est pour chacun de nous et qui se réalise par l'Esprit. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions Dieu. Ô Dieu de tendresse et de fidélité, nous voulons par notre geste nous souvenir de ce qu'a dit Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour toute l'humanité et pour nous. Envoie maintenant sur nous ton Saint-Esprit, afin qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous soyons en communion avec le Christ, avec sa façon d'être, avec ses paroles et avec sa résurrection. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour attendrir notre cœur et nous permettre enfin de reconnaître que notre prochain est digne d'être respecté, d'être servi, d'être aimé, et qu'ainsi nous soyons ensemble le corps du Christ. Nous pensons devant toi et grâce à toi à ceux que ton amour nous appelle à garder nous-mêmes par une parole, un geste, un regard. Et d'un même cœur, nous osons te prier comme notre Père commun à toutes et à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que je peux m'adresser, que je peux aller vers Dieu, que je peux me rassembler avec mes frères et sœurs autour de cette table, que chacun donc s'approche s'il le désire. Venez, nous dit Jésus-Christ, car tout est prêt.
Merci.
Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ ressuscité qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacun de nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière. Oui, que le Seigneur soit avec vous. Consolez mon peuple, dit notre Dieu. Parlez au cœur de votre peuple et criez-lui que son esclavage est fini, que sa faute est pardonnée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse lui-même de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Oui, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu, bénédiction donnée au singulier selon les paroles de Moïse. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui. Béni sois-tu, ô Dieu, source de toute vie.